Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. L'attaque de Vienne a été menée par un terroriste islamiste. Le ministre autrichien de l'Intérieur le décrit à l'instant comme tel. Il indique que le suspect était lourdement armé hier soir et équipé d'une ceinture explosive. 3 personnes ont été tuées à Vienne, dans la capitale. Première réaction à suivre dès le début de ce journal. Dans cette édition, nous irons aussi aux États-Unis à quelques heures de la présidentielle. Dernier meeting cette nuit avec les supporters des deux camps, vous l'entendrez. Une élection sous épidémie de Covid-19, nous verrons aussi les conséquences que cette épidémie a eues sur l'élection. Zoom enfin sur les librairies en France qui veulent rouvrir en plein confinement. La question des biens essentiels se pose. Une attaque en Autriche a fait au moins 3 morts selon le dernier bilan matinal donné il y a quelques minutes à peine. Attaque qui a eu lieu hier soir dans le centre historique de Vienne, la capitale autrichienne. L'un des assaillants aurait été tué. C'est un sympathisant du groupe État islamique selon le ministre de l'Intérieur autrichien ce matin. Un autre assaillant pourrait être en fuite encore ce matin. Le chancelier autrichien Sebastian Kurz parle d'une répugnante attaque terroriste d'une gravité sans précédent dans le pays ces dernières années. Réaction dans le monde, évidemment, et particulièrement en Europe depuis hier. Emmanuel Macron a exprimé sa solidarité envers le peuple autrichien après ces événements tragiques. Je vous propose ce matin d'écouter Frédéric Petit, député MoDem de la 7e circonscription des Français établis à l'étranger. Il fait, lui, un parallèle avec les attentats du 13 novembre, notamment au Bataclan.
Quand on sait le quartier, quand on connaît le quartier de Vienne, ils ont tapé, ça ressemble plutôt au café qui avait été attaqué à côté du Bataclan. C'est une attaque sur une manière de vivre, une manière de raconter le monde. Donc il ne faut pas se désolidariser. Ça concerne la France, ça concerne l'Europe, ça concerne le vivre ensemble. Et ce que l'Europe a à dire, elle a à le dire au monde. C'est aussi notable de remarquer que l'Autriche nous avait soutenus assez vite dans l'attentat horrible dont nous avons été victimes. Ça ne concerne pas que la France, que ça concerne l'Europe.
Des propos recueillis par Julien Langlais hier soir et nous en saurons plus évidemment dans le journal de 7h tout à l'heure sur France Culture. Nous irons à Vienne. À l'instant, Donald Trump, président des États-Unis, demande à ce que cessent les attaques du mal après cet attentat à Vienne. Donald Trump qui vivait cette nuit ses dernières heures de campagne électorale avant la présidentielle ce mardi aux États-Unis. Il était dans le Michigan devant ses supporters. Notre envoyé spécial a rencontré 2 de ses supporters, 2 Français élus du Rassemblement National qui ont fait le déplacement jusqu'aux États-Unis. Le sénateur des Bouches-du-Rhône et conseiller municipal à Marseille, Stéphane Ravier, accompagné du député européen Jérôme Rivière. Tous les deux voient dans le président américain un exemple à suivre, Maxime Tellier.
Il ne portait pas la casquette rouge « Make America Great Again », mais c'était tout comme. Stéphane Ravier, notamment, s'est dit impressionné.
Écoutez, moi, je fais ma découverte de l'Amérique. C'est la première fois que je viens aux États-Unis. Et je viens aussi pour observer cette campagne électorale. Et j'y observe déjà, j'y découvre un enthousiasme populaire avec des idées qui correspondent dans de nombreux points à ce que je souhaite pour mon pays.
Et l'élu marseillais se dit convaincu que Trump peut gagner un second mandat. Les 2 élus français sont d'ailleurs venus prendre des leçons, invités par un élu conservateur du Congrès, Paul Gosar, représentant de l'Arizona. Ils ont rencontré également Steve Bannon, Rudolph Giuliani et passent la soirée électorale à Washington. Jérôme Rivière croit en Trump, lui aussi, car il partage ses idées.
Il place les Américains d'abord, nous on place les Français d'abord. Il est patriotique et il est en train de faire revenir des emplois aux États-Unis comme on souhaite faire revenir demain des emplois en France. On est venu pour observer et regarder cet enthousiasme et prendre quelques idées pour la présidentielle à venir. Il faudra qu'on soit aussi enthousiaste qu'il a réussi à l'être.
Et aucune critique sur le président américain, aucune réserve, sa politique économique, sa politique sanitaire, ils achètent tout. Ils le disent sans détour. D'ailleurs, pour eux, la France s'en sortira mieux si Joe Biden n'est pas élu président.
Maxime Tellier pour France Culture et je précise que Joe Biden est élu cette nuit en Pennsylvanie. Le candidat démocrate a appelé les électeurs à reprendre le contrôle de la démocratie. Une campagne aux États-Unis marquée par la pandémie de Covid-19. Le virus pourrait bien venir troubler les plans des uns et des autres. C'est un reportage sur place de Rosalie Lafarge.
Les chiffres quotidiens sont alarmants. Le ton est grave chez le gouverneur du Wisconsin, mais Tony Evers, démocrate, insiste, le virus ne doit pas freiner la partie. participation. Un appel à la mobilisation relayé par Amy Pankey, jeune supportrice de Joe Biden.
On est tous très inquiets avec le Covid, mais je crois que ça ne doit pas nous empêcher d'aller voter. Et j'ai l'impression que tout le monde, ou presque, prend cette élection très au sérieux. On a tous envie de se faire entendre.
On sait aussi ici qu'on est dans un état clé, qu'il a suffi de quelques voix il y a 4 ans pour en offrir les 10 grands électeurs à Donald Trump, et ses soutiens ont bien l'intention de lui laisser les clés de la Maison Blanche.
Évidemment, tous les votes sont importants, mais dans un swing state, ça peut faire basculer l'élection. Donc là, c'est crucial.
Et paradoxalement, c'est bien Donald Trump que le virus pourrait désavantager. C'est en tout cas l'analyse d'Eleanor Neff Powell, professeure de sciences politiques à l'université de Wisconsin-Madison.
Les gens tombent malades dans tout l'État. Certains sont en quarantaine. Les agents de bureau de vote risquent de ne pas se présenter parce que ce sont souvent des retraités, un public à risque. Or, le président Trump a vraiment besoin de ces votes du D-Day. Si les électeurs hésitent davantage à venir, ça pourrait lui créer de gros problèmes.
Alors que les démocrates utilisent volontiers le vote anticipé ou le vote par correspondance, on dit effectivement les républicains plus enclins à voter en personne le jour J.
Rosalie Lafarge, que nous retrouverons à 7h25 dans les Matins de France Culture pour le reportage de la rédaction. Il est consacré ce mardi aux tensions raciales aux États-Unis. Rencontre avec l'électorat afro-américain dans le Wisconsin. Le Covid-19 en France, là aussi les chiffres inquiètent. Le nombre de morts ces dernières 24 heures a dépassé les 400. Pendant ce temps, plus de 420 patients ont été admis en réanimation, occupant au total la moitié des lits de réa dans les hôpitaux. Le gouvernement souhaite donc que le confinement du moment soit respecté par les Français. Un décret concernant les produits de première nécessité dans les grands magasins doit être publié ce matin. Mais déjà, et nous en avons déjà parlé, les librairies protestent. Elles sont soutenues ces librairies par de nombreux maires en France. Même le syndicat de la librairie française demande l'ouverture des magasins. C'est un changement de ton, Antoine Marette.
En mars dernier, alors que Bruno Le Maire se disait prêt à revenir sur la fermeture des librairies, le syndicat lui accusait une fin de non-recevoir, une réouverture prématurée serait dangereuse. Inversion des rôles désormais, c'est le gouvernement qui s'oppose à l'ouverture des librairies et le syndicat qui la réclame. Le délégué général du syndicat de la librairie française, Guillaume Husson, explique ce changement par l'évolution des conditions sanitaires.
En mars, on manquait de masques, on manquait de gel, on manquait de protocoles sanitaires en librairie et on manquait surtout d'habitude face à ce virus. On ne savait pas comment vivre avec le virus. Aujourd'hui, 6 mois après, ces choses-là ont considérablement changé. Les libraires ont fait la preuve que dans leurs magasins, ils étaient très prudents, très précautionneux. On considère aujourd'hui qu'on peut travailler avec le gouvernement pour trouver les bonnes modalités pour réouvrir les librairies.
Mais la raison n'est pas seulement sanitaire, elle est aussi économique. Les librairies sont un secteur déjà fragile, concurrencé notamment par Amazon, et un deuxième confinement prolongé serait pour beaucoup de professionnels une catastrophe, surtout à cette période.
Les 4 derniers mois de l'année représentent pour les libraires plus de la moitié de leur chiffre d'affaires. Donc on est dans une période qui, sur le plan économique, a un enjeu encore plus lourd qu'au printemps.
Ce que n'ont pas apprécié les libraires par-dessus tout, c'est que les rayons livres de la FNAC ne soient pas dans un premier temps concernés par ces fermetures, alors qu'en mars dernier, le premier libraire de France avait dû baisser le rideau.
Et plus largement, ce matin, pourquoi les livres ne sont-ils pas considérés comme des produits de première nécessité? Qu'est-ce qu'un produit essentiel? Bercy a donné sa définition en faisant des choix, au grand étonnement d'Alain Bazot. Le président de l'association de consommateurs UFC Que Choisir était hier soir l'invité du journal de 22h de France Culture. Il dénonce plusieurs interdictions.
C'est une vision extrêmement totalitaire de ce qui est bien pour les gens. Vous vous rendez compte, on va définir à Bercy que manger, évidemment, c'est un bien essentiel, on ne peut pas vivre sans manger. Mais au-delà de ça, il y a des gens qui ont besoin de très peu consommer d'alimentation, et en revanche, qui se nourrissent beaucoup de livres, qui vont chez leur libraire. J'ai discuté avec une dame ce week-end, là, j'étais en province. Une dame, ça faisait 2 mois qu'elle n'avait pas été chez le coiffeur, elle comptait y aller, elle n'a pas pu y aller, mais elle était complètement bouleversée, de se dire, vous rendez compte, j'ai 75 ans, regarde à quoi je ressemble, il faut que j'attende un mois pour avoir une coupe et puis une couleur. Et ça, pour elle, c'était essentiel. Mais non, c'est le monde selon Bercy, Et on voit bien la culture, tous les débats qu'il y a autour, de savoir si la nourriture culturelle, elle est essentielle ou elle n'est pas essentielle.
Des propos recueillis par Stanislas Vazak. Nous l'apprenons à l'instant, Alassane Ouattara a été réélu pour un troisième mandat à la présidence de la Côte d'Ivoire. La commission électorale évoque plus de 94% des voix en sa faveur. Rappelons tout de même que le scrutin avait été boycotté par l'opposition et a provoqué des violences dans le pays. Nous y reviendrons à 6h45 dans 5 minutes avec les enjeux internationaux de Julie Gacon. Quelques mots de météo maintenant avec un temps qui sera marqué encore par la pluie ce mardi, ce matin, du sud-ouest jusqu'au nord-est, tandis qu'ailleurs le ciel sera variable. Comptez ce matin 9 degrés à Lille, 10 à Paris, 17 à Marseille.